Bienvenue chers auditeurs dans ce numéro de L'écume des pages, l'émission sur Transistor qui part à la rencontre des passeurs de livres, des dénicheurs hors pair et des autres passionnés de l'écrit. Sur la page encore blanche de notre émission, nulle autre contrainte que le fruit du hasard, le goût du risque ou la chance du débutant. On observe l'écume des pages avec leurs auteurs, mais aussi leurs éditeurs, les libraires et puis vous, moi, n'importe qui, tous ceux qui ont un jour ouvert un livre, une BD, un roman et en sont sortis transformés.
Oui, je crois que vous, un jour peut-être je n'écrirai pas, mais je sais que je lirai toujours à moins de ne plus pouvoir voir.
Voici donc, chers auditeurs, à la fête du livre de Brombe, avec cette année le thème « Qu'est-ce qu'on a en commun ?» en compagnie de l'écrivain Jérôme Ferrari. Jérôme Ferrari, bonjour.
Bonjour.
Je me permets de vous présenter pour les auditeurs qui n'auraient pas la chance de vous connaître. Vous êtes un écrivain d'origine corse, prix Goncourt 2012 pour votre roman « Le sermon sur la chute de Rome » qui retrace l'histoire de deux jeunes Corses qui étudient à Paris la philosophie et qui subitement plantent leurs études pour ouvrir un bar dans leur village corse d'origine dans la montagne. Vous êtes également professeur de philosophie. Vous avez enseigné en Corse, puis au lycée français d'Alger, puis de nouveau en Corse, et vous êtes désormais au lycée français d'Abu Dhabi. Pour nous aujourd'hui, vous êtes surtout lyonnais, à l'occasion de la sortie de votre dernier livre, Le Principe, paru chez Actes Sud il y a 3 jours. Tout d'abord, Jérôme Ferrari, pourriez-vous un petit peu nous parler de votre dernier livre, Le Principe, qui mêle deux histoires, celle d'un jeune étudiant qui, après avoir échoué à un oral sur le principe d'incertitude d'Heisenberg, s'interroge sur la vie sulfureuse, au moins d'un point de vue politique, de ce savant allemand qui a œuvré grandement pour le progrès de la physique, et notamment l'apparition de la physique quantique, dans l'entre-deux-guerres.
Alors le principe est un roman qui est construit autour de la vie de Werner Heisenberg. Et j'espère que ce n'est pas une biographie ou un biopic. Puisque le roman n'est pas seulement fait sur sa vie, mais sur le contenu même de son travail, d'où le titre, puisque ça fait référence au principe d'incertitude ou d'indétermination. J'ai beaucoup de mal à décrire positivement le texte, c'est plus facile de dire ce qu'il n'est pas et les contraintes que je me suis posées pour l'écrire. Donc j'ai voulu que tout ce qu'on lit dans le roman en termes d'événements et de propos rapportés soit exact. Et que malgré cette exactitude, on n'ait pas l'impression d'objectivité ou qui peut se dégager de certains essais biographiques. Et donc j'ai imaginé en parallèle, dans un parallèle temporel avec Heisenberg, un narrateur qui avance dans le temps, mais lui pas dans les années, pas à partir des années 20, mais à partir des années 80, et qui entame une forme de dialogue avec Heisenberg. Au niveau des thématiques du roman, il y en a deux qui sont importantes, quoique en ce qui concerne la seconde, j'y ai pensé que plus tard. Moi, mon ambition au début, ce qui m'a donné envie de faire ce roman, c'est les implications quasiment poétiques et littéraires de la physique quantique. Dans l'interprétation qu'on propose à Heisenberg, hein, tous les problèmes d'interprétation des étrangetés de la physique quantique sont liés à l'inadéquation fondamentale existant entre les mots et les choses. Et comme on arrive avec la physique quantique dans un morceau du réel qui ne peut plus être décrit avec les concepts qui nous servent à appréhender le monde à notre échelle, et que par ailleurs ces concepts-là sont les seuls dont on dispose, eh bien on se trouve dans la situation où on doit parler de quelque chose dont au fond on ne peut pas parler. D'où la nécessité d'en parler de manière inexacte ou métaphorique. ce qui pour moi est le signe d'un lien ou d'une projection possible des concepts de la physique quantique dans la littérature. Alors c'est un point de vue assez abstrait, j'espère que je l'ai rendu concret dans le roman. Et la seconde thématique qui est plus, facile à saisir, quoi que ce soit pas nécessairement la plus intéressante, mais qui m'intéressait en second lieu, en quelque sorte, c'est que le destin de Heisenberg est un destin allemand au XXe siècle, posant toutes sortes de problèmes. Il est resté en Allemagne, il a travaillé au projet nucléaire, son rôle exact et la manière dont il doit être interprété est encore l'objet d'une polémique, mais c'est pas la question. En tout cas, il y a un parcours qui est pour moi celui d'une chute de la physique au XXe siècle, qui part d'une espèce d'amour désintéressé de la connaissance, et puis qui sombre dans le technicisme, je dirais. Et c'est ça qui, et ça aussi, ça m'intéressait.
Cette question du technicisme et de la technique, son rôle, son sens et vers quoi elle semble, vers quel type de société elle semble nous diriger, est exprimée à la fin de votre livre, qui d'ailleurs, en tout cas mon impression de lecteur, est qu'il semble se terminer sur une profonde touche de pessimisme. Vous citez d'ailleurs les propos d'Heisenberg sur la technique et le risque qu'elle nous fait courir, lorsque vous dites, en citant des propos d'Heisenberg, la technique n'apparaît presque plus comme le produit d'efforts conscients humains en vue d'augmenter le pouvoir matériel. Elle apparaît plutôt comme un événement biologique à grande échelle au cours duquel les structures internes de l'organisme humain sont transportées de plus en plus dans le monde environnant l'homme. C'est donc un processus biologique qui, par sa nature même, se trouve soustrait au contrôle de l'homme. Car même si l'homme peut faire ce qu'il veut, il ne peut pas vouloir ce qu'il veut.
Je sais pas, j'ai jamais beaucoup aimé trouver très opérantes les catégories d'optimisme ou de pessimisme.
Inquiet.
Ouais, je suis pas, j'ai pas une foi délirante dans le progrès, ça c'est sûr. Ce qui implique pas forcément qu'on ait pessimisme. Mais je suis pas non plus un prophète de la décadence, ce qui est l'exact inverse de la croyance du progrès. Moi, je pense que les choses, je suis assez schopenhauerien là-dessus. Moi, les choses sont plutôt linéaires, suivant un mouvement ascendant ou descendant. Évidemment, je viens de citer le nom du plus pessimiste des philosophes qu'on puisse imaginer. Mais voilà, je suis pas, ça me paraît pas très très opérant. Mais bon, entre optimisme et pessimisme, c'est certainement le pessimisme qui m'est le plus sympathique. Et il m'avait fait très plaisir de lire une phrase de Bernanos dans, je crois que c'est dans Les grands cimetières sous la lune. Bernanos dit qu'en quelque sorte, l'optimisme est un des masques de la sécheresse de cœur. Et je suis assez d'accord avec lui.
Et, ça, c'est terrible.
Et je suis bien content que ce soit sous la plume d'un écrivain catholique, c'est-à-dire peu soupçonnable de ne croire en rien, qu'on lise une remarque de ce genre-là. Si on regarde le monde et qu'on suppose qu'il y a la matière à se réjouir de manière béate, il y a quelque chose qu'on n'a pas bien vu, me semble-t-il. Cela dit, je pense pas que les choses vont de pire en pire. Et l'analyse que fait Heisenberg de la technique. La conférence de Heisenberg a été prononcée la veille de celle de Heidegger au même endroit, hein, à Munich en 53, et relève d'une philosophie de la technique qui est assez répandue dans les années 50 et à mon avis qui est répandue pour une raison assez simple, c'est qu'elle est tout à fait pertinente et juste. C'est le moment où on prend conscience, trouver aussi ça dans le texte de Heidegger, que le rêve de maîtrise de la nature avec des instruments issus de la volonté de l'homme est une plaisanterie, et qu'il est ni question de volonté ni même question ni question de maîtrise, et que dans le mouvement de développement technique initié il n'y a pas la volonté de l'homme est pas à l'œuvre. Je peux donner un exemple tiré de la physique atomique qui est, et à mon avis cet exemple-là, il est impossible que quelqu'un comme Heisenberg ne l'ait pas en tête. C'est Otto Hahn qui découvre la fission nucléaire en 1938. Il le découvre dans le cadre de recherches qui sont des recherches de pure physique fondamentale. Il y avait besoin d'un chimiste comme Hahn pour résoudre le problème, mais il n'y a aucune once de volonté d'aboutir à une application technique. Il est même impossible d'entrevoir qu'est-ce que ça pourrait vouloir dire, la possibilité d'aboutir à une application technique. Et évidemment, la découverte de la fission donne très très vite, mais une fois qu'elle est faite, rend possible l'utilisation de l'énergie atomique et la bombe. Qui l'a voulu ? Bon, vous voyez, il y a la volonté là, on est dans une espèce de développement quasiment mécanique.
Du coup, est-ce que vous penchez plutôt pour une sorte de science actuelle s'allie intégralement dans ses compromissions avec la technique, et voire même dans le cas d'Heisenberg, d'une sorte de servitude inconsciente peut-être, puisque vous parlez bien d'Heisenberg en tant qu'un homme presque niais, presque candide, tellement il est idéaliste et pense pouvoir tirer le bien en toute situation. Vous parlez, je cite, des îlots de stabilité, propos tenus par Niels Bohr dans la correspondance avec Heisenberg, qui défendait l'idée, face au doute d'Heisenberg de rester en Allemagne, de rester pour établir des îlots de stabilité dans le chaos qui semblait émerger. Et pourtant, on voit bien que cette tentative, aussi belle soit-elle, reste quand même une servitude du politique, puisqu'il est contraint à toutes sortes de dévoiements et de litiges avec sa conscience, notamment lorsqu'il s'engage dans l'élaboration d'un projet nucléaire. Et donc, est-ce que vous défendez cette vision-là, ou plutôt une sorte de science double, probablement schizophrène, dans laquelle il y aurait une partie qui serait souillée par des questions de rendement économique ou politique? On peut prendre par exemple le cas que vous évoquez d'ailleurs dans votre ouvrage, qui est celui des mathématiques appliquées à la finance, ou alors de la physique dans les applications techniques et les téléphones que nous avons actuellement dans la main, ou avec d'autre part, donc cette science d'un côté souillée et de l'autre part une science pure, théorique, fondamentale, dont on voit pourtant, et dans ce cas-là je réponds un petit peu à ma question, que la limite est toujours poreuse et très difficile à établir.
Elle n'existe pas, la frontière. Simplement, je pense que le moment que j'ai écrit dans le roman, c'est le moment où on découvre que la frontière n'existe pas. Là, je me fais pas l'écho de ma conception à moi de la science, mais je vois manifestement qu'il y a une espèce de sentiment d'appartenir à une élite aristocratique dans les années 20, hein, dire à quelqu'un des années 20 qui fait des recherches en physique, hein, pour le développement technique, c'est quasiment insultant là, enfin, c'est des gens qui supposent que, là je crois pour le coup, que le savoir a une valeur par lui-même, qu'il n'y a pas besoin d'être validé par ce qu'on peut en faire après. Maintenant que du savoir découlent des possibilités techniques, c'est un fait, et il est impossible qu'il en soit autrement. J'ajouterais même que les possibilités techniques qui découlent des avancées de la connaissance seront réalisées et dépendent absolument. Là, pour le coup, je crois absolument pas à ce dont ils rêvaient eux aussi, c'est-à-dire la possibilité de choisir ce qu'on va faire ou pas. Oppenheimer, par exemple, a tout fait pour empêcher que la bombe à hydrogène se fasse. Quand on a découvert, évidemment qu'elle s'est faite. Mais évidemment, pour le roman, j'ai supposé qu'en tout cas qu'eux vivent ça comme une souillure. Mais c'est toujours comme ça que j'ai interprété cette magnifique phrase d'Oppenheimer, hein, où il dit, si je me rappelle bien, il me dit dans un certain sens, brutal. Qu'aucun trait d'humour, ne pourront jamais épuiser. Et les physiciens ont connu le péché et c'est là une connaissance qui ne pourra pas leur être enlevée. Quand il dit les physiciens ont connu le péché, il ne parle pas des gens qui ont travaillé au projet Manhattan, mais il parle des physiciens en tant que ceux qui ont fait de la physique. Et il parle de ce que la physique a rendu possible. Et donc évidemment qu'on peut pas couper, sauf abstraitement, la connaissance de ces applications techniques. Et maintenant, sur les tout petit aparté, je pense que les gens qui s'occupent de la politique de la recherche en France devraient un peu lire ce qui se passe dans l'histoire des sciences, où ils apprendraient donc qu'on ne peut pas demander à la recherche fondamentale d'être orientée vers une application technique, puisqu'on ne peut pas savoir, quand on fait de la recherche fondamentale, quelles vont être les applications techniques qui vont en sortir. J'imagine bien quelqu'un dire à Anne, votre histoire de ce qui se passe quand on bombarde un uranium de neutrons, ça n'a aucun intérêt pratique, arrêtez de chercher là-dessus. C'est toujours cette espèce de pragmatisme a priori, ou d'utilitarisme a priori, c'est vraiment la chose la plus stupide qui soit, c'est ne rien comprendre à la manière dont se passent les choses.
C'était un message pour l'actuel ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche.
Je crois pas que ça concerne l'actuel.
L'actuel ou tous les ministres.
Non, j'ai plutôt l'impression que c'est une manière très techniciste d'imaginer la recherche, l'éducation, tout ça.
Je pense qu'un certain nombre de nos confrères dans les laboratoires de physique, chimie et de mathématiques, même de l'ENS, seraient d'accord avec vous. Et pour revenir à ce qui vous touche particulièrement, puisque vous avez choisi d'en faire votre vie, la philosophie, est-elle aujourd'hui cette absence de goût, cette perte d'importance de la philosophie dans le cœur et la vie des gens, qui par ailleurs se manifeste par une difficile rémunération des philosophes et une déconsidération du rôle du philosophe dans la société, dans le travail scientifique, en dehors d'un cercle d'initiés, d'irréductible quelque part du savoir, cette philosophie qui se raréfie est-elle pour vous le symptôme d'un déclin généralisé, un petit peu civilisationnel, une sorte de baisse de la vitalité du monde que vous assimilez toujours à un homme, ou n'est-elle que la fin d'un monde parmi d'autres, avec la promesse ou le début d'un autre? Vous écrivez d'ailleurs, en parlant de la philosophie, d'une, je cite, « monnaie dévaluée » dans le sermon sur la chute de Rome. Et donc, selon vous, la philosophie est-elle condamnée?
La philosophie?
La philosophie, oui.
Moi, je crois pas du tout à ces histoires de crépuscule. Croire au crépuscule, ça veut dire qu'on croit à l'aube, enfin voilà, qu'on est dans une... C'est qu'on est soit dans une logique ascendante ou descendante, et moi, j'arrive pas à me situer comme ça. Et je pense qu'il est absolument impossible de le faire en jugeant sa propre époque. On peut juste constater que on n'a pas une grande impression de vitalité quand on regarde nos sociétés, mais je pense à quelque chose qui m'avait frappé. Il y a une conférence très célèbre de Gilles Deleuze, je pense que c'est à la Fémis, où il parle aux étudiants de cinéma, où il demande, on va parler, ça va pas bien fort dans le cinéma, ça va pas fort chez nous, chez vous. Et Deleuze dit, chez nous non plus, ça va pas bien fort. Et il me semble, moi, quand je regarde ça avec le temps, que la seule présence de Deleuze fait que ça va plus fort que maintenant, et que donc l'impression
et que
le fait que ça aille pas fort, c'est pas un sentiment auquel il faut accorder une importance excessive, quoi que ce soit un peu le mien. Hein. Je suis un peu il n'y a pas la philosophie qui m'inquiète, moi. C'est une vieille discipline, la philosophie. Ce qui m'inquiète un peu, c'est ce que le système médiatique s'est mis brutalement à appeler philosophie sans se poser de questions. J'ai toujours pensé que si on appelle philosophe quelqu'un qui a des avis sur les grands problèmes de la société, alors là, pour le coup, un peu de précision de vocabulaire me semble nécessaire.
Mais du coup, ne nous dirigeons-nous pas vers des préoccupations de plus en plus, non seulement sociétal, on va convoquer un plateau, sur un plateau, un sociologue, un économiste et un philosophe pour le prestige intellectuel. On va blablater sur l'actualité, débat de 10 minutes, voilà, très bien. Mais en faisant cela, on ne fait qu'aborder les problèmes sous l'angle thématique, sans effort de vision globale, sans effort de synthétiser les problèmes que pose une certaine contemporanéité, sans une pensée quelque part, comme si on voulait non plus décider dans toute la complexité qu'elles peuvent posséder, mais une sorte de petit digest avec au final une bénédiction, un assentiment. Voilà, la science a parlé, on peut maintenant faire ce qu'on veut et on remballe et puis on passe à la question suivante. Rideau, on change de plateau télé, il n'y a rien à voir.
Mais en fait, si on regarde ce qui se passe dans les médias, on peut avoir cette impression-là, mais là où on a peut-être une sorte d'illusion d'optique inévitable parce qu'on a le nez collé à notre époque, c'est que on peut peut-être imaginer ou rêver que c'est pas qu'il y a pas que là qui se passe des choses essentielles et que même dans des domaines un peu périphériques ou des choses comme ça, on peut continuer à faire des choses. Par parenthèse, si je croyais pas un peu ça, j'écrirais plus de romans. Parce que moi, les deux activités que je pratique dans ma vie, c'est l'enseignement de la philosophie et l'écriture de romans. J'ai pas l'impression que ce soit les deux activités qui soient le plus, comment dire, qui suscitent le plus d'enthousiasme délirant ou qui correspondent le plus au genre de beauté de l'époque, quoi. Et si je pensais que c'était complètement inutile et que tout était foutu, je vois pas où je trouverais l'énergie de continuer à faire ça. Moi, il me semble que continuer à donner des cours de philosophie, ça a un sens. Écrire des romans, ça a un sens.
Ce qui est déjà beaucoup.
Voilà.
Il en suffirait presque d'un, je dirais. Mais bon, j'espère que vous n'êtes pas le seul et que.
Ah, bah, je suis loin d'être. Bien sûr, je suis loin d'être le seul. Heureusement, il reste en France et dans le monde, pour l'instant, une pratique de la fiction littéraire qui résiste aux analyses qui sont partout menées sous l'autorité, par exemple, du marché du livre. Pour moi, le livre, ça veut rien dire du tout. C'est une espèce de, on appelle les choses par un support. Il y a toutes sortes de livres, donc, mais la fiction littéraire, peut-être qu'il se vend pas énormément ou qu'elle est vivace, c'est d'ici, c'est exclusivement de ça qu'il est question à Bron ici, par exemple.
Revenons à présent un peu plus sur votre œuvre personnelle, si vous le voulez bien, avec une question qui semble très importante pour vous. C'est une sorte de notion, plutôt qu'un concept ou même une question, qui est celle du monde, ou plutôt des mondes. Vous en parlez très souvent, et vous reconnaissez vous-même que cette idée vous intéresse particulièrement au cours de divers entretiens que vous avez pu faire. Explorer la genèse de ces mondes, raconter leur vie, leur apogée, ainsi que contempler leur fin et leur chute, vous l'avez fait plusieurs fois, notamment à travers la figure de Saint Augustin dans Le Sermon sur la chute de Rome, qui est votre avant-dernier roman, avec cette phrase célèbre, je cite Saint Augustin, « Le monde est comme un homme, il naît, il grandit, il meurt. » Et donc, c'est exactement en fait ce que vous faites dans ce roman-là, où vous racontez comment les deux jeunes gens, en arrivant donc dans le village de leur enfance, reprennent le bar du village qui en fait est complètement en faillite, et comment donc toute une vie et un monde se constituent autour de ce bar, son activité, ses soirées, et comment petit à petit, avec une apogée évidemment, on assiste progressivement, dans les dernières pages vous le décrivez, au délitement de ce monde, avec l'introduction d'éléments exogènes qui viennent complètement pourrir la stabilité, qui viennent fragiliser la stabilité du monde, qui va finir par imploser. Sujet qui vous intéresse d'ailleurs à tel point que vous avez failli appeler ce livre, le Sermon sur la chute de Rome, au début vous ne saviez pas trop, les mondes. Pourriez-vous du coup nous expliquer ce que sont ces mondes et pourquoi vous leur accordez à travers votre œuvre une si grande importance, Jérôme Ferrari?
Je pense qu'elle doit condenser mon double penchant pour la fiction littéraire et la métaphysique. Alors c'est évidemment quelque chose que j'aime beaucoup, qui arrive à faire les deux en même temps. J'ai une grande, grande, grande admiration pour Leibniz, par exemple, qui est vraiment le philosophe qu'il faut immédiatement convoquer quand il s'agit de parler de monde. Mais c'est une notion dont on peut faire plusieurs concepts. Moi, le concept qui me paraissait opérant, notamment dans le Sermon sur la chute de Rome, et intéressant, c'est qu'on peut... c'est un concept aux frontières mouvantes. qui peut être saisi à différents points de focale, comme le concept de culture d'ailleurs, exactement.
J'allais vous anticiper la suite de mes questions, puisque j'allais vous dire qu'on peut le prendre à la fois dans une sorte d'entité globale qui structure une société, presque une sorte de cosmos, et en même temps sur une échelle individuelle qui serait une échelle des représentations de la trajectoire personnelle, et donc
c'est presque comme le concept de culture en ethnologie qu'on peut adapter à la taille de ce qu'on étudie. Alors si on doit en donner une définition la plus abstraite possible pour qu'elle puisse englober toutes ces différentes focales, je dirais que c'est on peut considérer que c'est un ensemble d'éléments qui forment système sur un horizon commun et où les éléments sont entre eux en situation d'interdépendance, qui sont donc relativement clos à cet égard, quoique bien sûr ils puissent être reliés à d'autres ensembles du même type. Je peux supposer aussi que parmi tous ces éléments, il y en a qui sont plus structurants que d'autres, et moi d'un point de vue fictionnel, ce qui m'intéressait, c'était de penser que l'élément structurant, la clé de voûte, celui qui faisait que tout ça tenait et faisait monde, n'était pas un élément bien visible, n'était pas un élément spectaculaire, mais c'était un tout petit truc, et puis que si on l'enlève, tout s'écroule sans qu'on sache pourquoi. Alors si cette définition, on voit bien qu'elle peut coller à une toute petite communauté humaine, celle d'un barcorse par exemple, au corps d'un hypochondriaque, à un empire, à toutes sortes de choses, et sans doute au cosmos aussi dans son ensemble. Et Leibniz utilise beaucoup fait très très souvent varier la focale aussi, hein. C'est extrêmement poétique ces textes, et il considère même dans un tout petit texte très beau qu'un roman c'est aussi un petit monde possible.
Et donc, à propos, Jérôme Ferrari, de cette idée d'altérité à travers la communication des différents mondes, je dois vous faire une confidence. À la lecture de vos ouvrages, il m'est apparu quelque chose d'inquiétant. Ces mondes, en effet, semblent souligner, vous me dites si vous n'êtes pas d'accord bien sûr, une sorte d'incompréhension entre les personnages, dans le sens où il existe une irréductibilité de chacun des mondes entre eux. C'est-à-dire qu'on n'est pas dans la situation qui serait par exemple celle de Leibniz, avec par exemple, imaginons les questions des monades, où chacune des monades contient la totalité des possibles, et qui n'en sont en fait que des variations, des déclinaisons d'états possibles. On retrouve dans vos ouvrages une réelle incompréhension entre les personnes qui font qu'ils ne se parlent pas. Comme nous le montre ce passage de votre livre, Le Sermon sur la chute de Rome, que nous allons écouter. Aurélie enfouissait son visage dans ses mains et répétait « Papa, mon Dieu, papa !» Alors qu'il ne pouvait pas être si malade que ça, il le disait lui-même, et Mathieu se leva pour se servir un whisky. Il essayait de se concentrer en vain sur les paroles de son père, mais les mains d'Isaskun se posaient sur ses oreilles pour l'empêcher d'entendre, et les mains d'Agnès effleuraient ses paupières comme on clôt les yeux d'un mort, pour l'empêcher de voir, et malgré tous ses efforts, il ne pouvait ni voir ni entendre son père, Jacques Antonetti, expliquer, comme il pouvait à ses enfants, qu'il allait peut-être mourir bientôt, car son discours n'avait pas sa place dans le meilleur des mondes possibles, le monde du triomphe et de l'insouciance, et il ne pouvait y acquérir le moindre sens intelligible. Ce n'était qu'une rumeur désagréable, les remous inquiétants d'un fleuve souterrain dont la puissance lointaine ne pouvait menacer l'ordre de ce monde parfait, dans lequel il n'y avait que le bar, le nouvel an qui approchait, un ami qui était comme un frère, et des sœurs dont le baiser incestueux exhalait les parfums de suave rédemption. Il y avait une éternité de quiétude et de beauté que rien ne pouvait troubler, si bien que quand Jacques le serra dans ses bras et l'embrassa avec émotion, en lui disant « S'il te plaît, ne t'inquiète pas, tout ira bien », il ne put que lui répondre en toute franchise qu'il ne s'inquiétait pas, car il savait que tout irait bien, et son père lui dit « Oui ». en fin de compte, Jérôme Ferrari, face à cette difficulté, comme nous venons de l'entendre, de communiquer réellement, autre chose que des mots formels qui n'ont même pas de sens pour Mathieu, alors même que son père semble mourir, par rapport au thème de cette année de la fête du livre, qui est « Qu'est-ce qu'on a en commun ?» Comment peut-on avoir quelque chose en commun dans cette situation, dans cette vision que vous semblez porter à des mondes qui semblent irréductibles l'un à l'autre, Jérôme Ferrari ?
Mais moi j'aime bien qu'il y ait plusieurs mondes. Hein. C'est pas j'aime bien qu'il y ait plusieurs mondes. Et le revers de la médaille, c'est que ça signifie une certaine clôture et une certaine imperméabilité qui permet quelques points de contact, mais pas tous. Je peux donner deux exemples tirés de mon expérience personnelle parce qu'on faut toujours un peu, c'est jamais inutile d'expliquer un peu d'où on parle. L'expérience décrite par Mathieu dans le sermon sur la chute de Rome, c'est quelque chose que moi Pas sur le passage que vous avez lu, mais sur le fait d'être la moitié du temps dans un endroit, donc en l'occurrence pour moi c'était Vitry-sur-Seine, et l'autre moitié du temps dans un autre endroit, en l'occurrence Fozzane, dans mon village. Ça, c'est une expérience que j'ai faite depuis que je suis tout petit et qui a certainement suscité mon intérêt là-dessus parce que ça veut dire appartenir à deux mondes différents et qui ont alors là du coup rien en commun. Et là, j'en parle pas pour parler de mon existence à moi, mais parce que ce que je raconte est quasiment générationnel. C'est pas une chose qui me concerne moi. Beaucoup de gens ont vécu ça. Et comment opérer le passage d'un espace à l'autre, c'est quelque chose qui est très compliqué. Quand on est, surtout avec des différences culturelles très très marquées comme ça, et y a pas de bonne solution. Imaginez qu'on peut être quelqu'un qui synthétise de manière harmonieuse ces deux aspects de soi-même, c'est impossible. Je pense que ça peut provoquer des formes de rigidité identitaire qui voudraient qu'on repousse loin de soi quelque chose qu'on reconnaît pas. Et en ce sens-là, c'est un peu ce que fait Mathieu. Le deuxième exemple qui m'avait alors là beaucoup frappé, parce que ça je l'ai découvert, je le savais pas, c'est pas des choses qu'on peut savoir théoriquement, vient des 4 années que j'ai passées en Algérie et du constat que j'ai fait de situations où ce qu'on est socialement, culturellement, etc., fait qu'on ne peut pas rentrer en contact avec un certain type de personnes. Et que c'est pas du tout une question de savoir est-ce que je suis gentil, est-ce que je suis bienveillant, est-ce que je suis ouvert aux autres cultures. C'est un moment où la gentillesse, la bienveillance, l'ouverture aux autres cultures deviennent mais ridiculement inopérants. Et c'est le cas par exemple à chaque fois qu'on est dans une situation où on est dans une où notre supériorité économique, c'est-à-dire notre richesse, est telle qu'elle nous définit entièrement. Et évidemment, c'est la faute de personne. C'est le type de... Alors, et là, on se trouve devant une imperméabilité des mondes qui est absolument désespérante. Dans le sermon sur la chute de Rome, c'est illustré par l'histoire d'amour raté entre Aurélie et son collègue algérien. Et bien sûr, c'est ni la faute d'Aurélie, ni la faute de son collègue algérien, mais simplement le fait qu'ils évoluent dans des sphères qui peuvent pas se rejoindre.
Dernière question avant de passer à la seconde partie de notre entretien qui concernera davantage le lien que vous pouvez porter, vous, écrivain, avec la terre dans laquelle vous avez vécu, qui est en l'occurrence la Corse. À votre avis, Jérôme Ferrari, je voudrais vous poser la question, qu'attend aujourd'hui le public de la parole d'un écrivain qu'il ne trouverait plus ou pas chez les journalistes, les spécialistes de telle ou telle question, ou même chez les hommes politiques? Autrement dit, quelle peut être aujourd'hui la spécificité de la parole, du message d'un écrivain, Jérôme Ferrari?
Alors ça, je n'en sais rigoureusement rien, et je ne suis pas du tout sûr qu'on puisse désigner un désir qui fédérerait quelque chose en commun. On peut traiter aussi une rencontre littéraire sous un aspect entièrement médiatique et people. Il y a des gens qui aiment bien les écrivains, alors ils veulent en voir, il faut faire très attention quand on participe à beaucoup de manifestations comme ça. C'est vraiment un écueil de pas en venir à produire un discours qui est bien rodé, qui tourne bien. Voilà. Maintenant, si le désir honorable auquel ça pourrait répondre, à mon avis, il est double. Il est d'avoir un regard honnête porté sur ce que ça veut dire que la création littéraire, et et avoir une saisie du monde contemporain et de ses enjeux qui est effectivement pas soumise au formatage médiatique ou aux angles journalistiques. Et bien sûr, ça suppose qu'on croit, comme je le crois évidemment moi, que le roman, en tant que fiction littéraire, a quelque chose à dire du réel. Mais s'il avait rien à dire du réel, il serait pour moi pas du tout intéressant.
Chers auditeurs, cette émission est à présent terminée. Mais ne vous inquiétez pas, car nos aventures en compagnie de Jérôme Ferrari ne sont pas pour autant finies. La semaine prochaine, il nous emmène en Corse. Oui, en Corse. D'ici là, je ne vous laisse pas sans reste. Voici un morceau qui vous parle d'ailleurs méditerranéen et de crépuscule nappé de Sirocco. Voici Mare d'Argento.